Voilà, chers amis auditeurs, nous allons retrouver tout de suite le père Eric Walbrecht pour cette émission Le Dessein Bienveillant de Dieu. Voilà, bonsoir père et bienvenue sur Radio Maria France.
Merci, merci. Bonsoir à tous. Voilà, j'espère que tout le monde va bien. Je vous souhaite vraiment beaucoup de bonnes choses, beaucoup de bénédictions. Et puis donc, nous allons ensemble passer ces 40 minutes sur le plan spirituel, toujours dans la veine du dessein bienveillant de Dieu. Donc, j'avais donc esquissé auparavant, donc dans une longue introduction, cette bienveillance de Dieu au cœur même d'une bénédiction. Et à partir de l'épître aux Éphésiens, donc nous avons découvert ce projet éternel avant la fondation du monde, comme quoi Dieu désire dans un premier temps nous appeler, nous élire à sa sainteté, afin de nous prédestiner à l'adoption filiale. Donc c'était en fait l'ensemble de ce chapitre 3 que je vous avais donné. Et donc dans une sorte de chapitre 4, je souhaiterais avec vous aborder dans cette continuité de ce projet bienveillant un thème qui n'apparaît pas du tout facile, qui c'est celui de la liberté humaine, et je l'intitulerai donc « La liberté humaine et le sacrifice du Christ ». Alors je trouve que ça tombe bien puisque nous sommes justement aujourd'hui même entrés ensemble dans le carême où nous allons suivre le Seigneur dans son envie de sauver l'ensemble de l'humanité et surtout, comme nous le verrons au cœur de cet exposé, de nous sauver dans notre propre liberté. Alors pourquoi aborder cela? Tout simplement parce que nous avons vu tout le grand projet de bienveillance de Dieu, d'élire et d'appeler tous les hommes à cette sainteté et à cette prédestination à l'adoption filiale. Il n'y en a aucun ou aucune qui se trouve exclu de ce projet. Et puis se pose bien entendu la problématique du péché originel, de la catastrophe au cœur même de l'histoire en raison de l'apparition de la mort, des guerres, des souffrances, des maladies, bref, tout ce dont l'humanité en quelque sorte est entachée en elle-même d'une lèpre dans laquelle, d'une certaine manière, elle n'arrive pas en dehors du Christ à se libérer. Alors je voudrais pour cela commencer par vous lire dans la première épître de Pierre ce petit passage au chapitre 1. Pierre, aux élus, selon la préscience de Dieu le Père dans la sanctification de l'Esprit, pour obéir et être aspergé du sang de Jésus-Christ, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande miséricorde, il nous a engendrés de nouveau par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour une vivante espérance, pour un héritage exempt de corruption, de souillure, de flétrissure, et qui vous est réservé dans les cieux, à vous que, par la foi, la puissance de Dieu garde pour le salut, prêt à se révéler au dernier moment. Alors j'avoue que c'est un petit peu probablement difficile de tout digérer. On pourrait dire que dans sa préscience, Dieu nous a engendrés de nouveau par les mérites de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. C'est ce qu'essaye de nous dire Saint Pierre. Tout ceci à la source de leur être se trouve cette mystérieuse élection. Ce dessein du Père consiste donc dans cette récapitulation de toutes choses, mais à l'intérieur du mystère pascal du Christ. L'homme peut alors recevoir et comprendre sa propre histoire ou son propre mystère, justement à l'intérieur de ce projet divin qui le précède et le convoque depuis les profondeurs de l'éternité. Je cite l'Épître aux Romains, chapitre 8. Ceux qu'il a appelés selon son dessein bienveillant, d'avance, il les a discernés, il les a choisis. En fait, si on veut bien comprendre, tant l'élection que la filiation restent possibles malgré la chute qui est vue, qui est prévue, qui est assumée dans la préscience divine. Car le Fils éternel est présent dans la Sainte Trinité. Il y est présent pas simplement en tant que deuxième personne, pas simplement en tant que Verbe, mais il est déjà présent en tant qu'Emmanuel, en tant qu'agneau immolé. C'est dire que tous, nous sommes discernés avant la fondation du monde, avant le Big Bang, dans le sacrifice du Christ. Je vous renvoie à différentes émissions dont j'avais développé auparavant cette notion de la fameuse Trinité de Roublev, où deux personnes trinitaires regardent l'autre, qui focalise son regard d'amour sur la coupe, sur cette coupe sacrificielle qui est déjà vue depuis toute éternité. L'œuvre de la rédemption assume donc par avance le péché de tous les hommes et les rend capables de cette communion avec Dieu. Restons avec saint Pierre ce soir. Je le cite toujours dans la première épître. « Vous avez été rachetés de la vaine conduite par un sang précieux comme d'un agneau sans reproche et sans tache. Discernez cet agneau dès avant la fondation du monde, dit-il, manifesté à la fin des temps à cause de vous. » On le comprend bien, cette fois, c'est bien l'agneau éternel et immolé qui est discerné ou qui est choisi, qui est élu par le Père à cause des hommes, à cause de notre élection en vue de l'adoption filiale, de leur création et de leur rédemption. On pourrait dire que tout converge afin que la destinée de chaque homme soit assumée déjà dans l'éternité de la Sainte Trinité. Ainsi, depuis toute éternité, chaque homme, chaque femme est élu en vue de l'adoption filiale afin de participer à la vie divine dans le royaume. Malgré la chute originelle, malgré les péchés de l'histoire que cet homme commettra dans sa vie, tout est assumé depuis toute éternité en Dieu en raison de la présence du Verbe et du Fils éternel qui, bien que non encore incarné, se trouve être l'agneau immolé. Je fais une petite parenthèse, cela nous fait penser à ce commentaire de l'Épître aux Éphésiens où nous faisions exprès de nous interroger au nom de tous ceux et celles qui s'interrogent légitimement, comment se fait-il que nous soyons discernés par avance, que nous soyons adoptés par avance de toute éternité dans le Christ, c'est-à-dire dans la personne de Jésus-Christ, alors que pour qu'il soit Jésus-Christ, il faut que le monde existe, il faut que l'incarnation existe. Eh bien tout simplement parce que dans la préscience divine, bien avant le Big Bang, Dieu, ce Dieu trinitaire, désire déjà incarner pour nous adopter et pour nous sauver. Et que de toute éternité, il voit véritablement la présence de cette deuxième personne de la Trinité comme étant déjà l'agneau sans tache et immolé. Alors, d'ores et déjà, en ce début de carême, j'ai envie de dire, voyons-y tout de suite les conséquences. Que ceux qui ont été élus dès l'origine soient finalement sauvés ou perdus, c'est de toute façon à l'intérieur d'un dispositif sacrificiel qui a été mis en œuvre en Jésus-Christ par une pure grâce qu'ils peuvent se sauver ou se perdre. Leur nom se trouve ou non, se trouve ou pas écrit dans les écrits du livre de vie de cet agneau égorgé depuis la fondation du monde, nous dit saint Jean dans le livre de l'Apocalypse, mais sans qu'ils aient été prédestinés à autre chose qu'au mystère de vie inclus dans l'agneau discerné dès avant la fondation du monde. Si ce mystère devient le signe de contradiction pour la chute et le relèvement d'un grand nombre, la raison en est que certains s'excluent eux-mêmes du pardon qui leur est offert dans le sacrifice auquel ils se trouvent ainsi à jamais liés. On voit bien que nous esquissons ici un mystère qui, certes, nous dépasse, parce que la grâce accordée en plénitude est celle de la filiation conduisant, nous dit saint Paul aux Romains, à la liberté glorieuse. C'est dans son Fils incarné que le Père l'a disposé à destination de tous ses élus. Il l'a disposé comme étant une grâce d'adoption en esprit de liberté et comme une grâce de rédemption en surmontant dans la seule obéissance du Christ la défaillance possible de cette liberté chez les appelés. Ainsi sont données conjointement dans le Fils toute la liberté sainte de ces nombreux frères que nous sommes et toute la reprise sacrificielle de leur éventuelle déchéance relativement à cette liberté. C'est dire que nous sommes véritablement de toute éternité choisis, que nous sommes de toute éternité adoptés, mais aussi que nous sommes véritablement sauvés par le fait même que le Christ incarné désire restaurer le don originaire de la liberté que nous aurions en quelque sorte perdu. Car c'est bel et bien cette liberté qui nous est donnée, qui est en quelque sorte l'attribut de notre ressemblance divine. Est véritablement libre celui qui est Dieu, est véritablement libre, sont véritablement libres les fils de Dieu. C'est donc le Christ incarné qui intervient à ce niveau d'analyse ou de notre pensée. En lui sont données conjointement toute la liberté sainte de ses nombreux frères et toute la reprise sacrificielle de leur éventuelle déchéance relativement à cette liberté. C'est en ce sens qu'il faut dire que l'élection des hommes consiste dans le discernement et dans la mise en situation dont ils reçoivent la grâce à l'intérieur même du mystère de l'agneau. Le sacrifice de l'agneau contient alors en puissance cette adoption, cette rédemption, jusqu'à cet envers insondable de la liberté qui est malheureusement la perdition. Seul, en effet, le sacrifice du Christ restitue, en le récapitulant, le don de la liberté dévoyée par le péché. L'obéissance de Jésus jusqu'à la mort rend possible aux hommes de nouveau toute la liberté filiale de l'obéissance. Mais il s'agit bien d'un recouvrement et non point d'une abolition du don premier de la liberté qui avait été donné à Adam et à Ève. L'homme libéré pour la liberté, par la grâce d'un autre qui est le Christ, se trouve d'autant plus irrévocablement constitué responsable devant lui-même, devant son libérateur. Par notre liberté, nous sommes, j'ai presque envie de dire, soit heureusement ou malheureusement, totalement responsables devant notre Créateur et devant notre Sauveur. C'est dire que nous sommes ainsi fort loin de cette idée d'une restauration universelle et inconditionnelle dans le Christ de la création déchue. La récapitulation rédemptrice n'aboutit pas à un rétablissement complet de tous les hommes ou de Satan lui-même dans l'état original de la création qui a été condamné par l'Église, que l'on appelle l'apokatastase. En effet, la récapitulation, la vraie, embrasse tous les hommes, mais de manière sacrificielle. C'est dans le sacrifice du Christ que nous sommes véritablement rachetés. Mais jamais elle ne leur ôte cette liberté de se refuser à l'amour d'un Dieu qui les a prévenus, qui les aime et qui leur donne jour après jour sa propre grâce. Car le Père éternel respecte jusqu'au bout la logique du don premier de sa grâce, de l'adoption filiale dans la liberté. C'est pourquoi la récapitulation, le salut qui est réalisé dans le Christ et par lui, va prendre la forme d'un sacrifice, va déployer la force d'une sorte d'impuissance. Car le cœur le plus mystérieux du sacrifice du Christ, du sacrifice de l'agneau, de sa kénose la plus secrète, c'est-à-dire de son anéantissement le plus total, consiste justement dans la part d'échec éventuel que le Christ lui-même assume librement. Alors je pense que là nous pouvons maintenant faire une petite pause pour un petit peu digérer ce mystère où véritablement le Christ assume de souffrir en totalité à la mesure où des âmes se dérobent à lui-même. Ce point qui n'est pas évident, qui est celui de la liberté humaine et qui est généralement très peu compris, parce que en fait cette liberté est vue de manière très souvent autonome pour elle-même, en dehors en quelque sorte du sacrifice du Christ. Et c'est là où je désirais véritablement faire réfléchir l'ensemble de nos amis auditeurs, de notre famille, de Radio Maria, sur ce grand mystère de la liberté humaine qui nous est donnée. La liberté humaine est en effet un don, et de la manière dont, avec le Christ, nous en usons, nous pourrions dire, et je pense, soit cette liberté humaine, nous en usons pour véritablement être dans la vie en Dieu, dans une vie de fils et de fille par adoption dans le Père, ou alors c'est une liberté qui, on pourrait dire comme celui qui un jour deviendra le fils prodigue, c'est une liberté qui se néante, c'est une liberté qui se détruit et que l'on pourrait considérer comme étant une liberté qui demande, on pourrait dire, sa part d'héritage. Car le don de la rédemption peut malheureusement présenter la possibilité d'être tenu en échec par les créatures, par celles et ceux qui bénéficient de cette promesse de l'adoption. Oui, le don de la rédemption est tenu en échec par ceux-là même qui se damnent. Le cœur de l'homme, nous le voyons, peut rester insensible face à la grâce qui frappe à sa porte, à cette grâce qui le sollicite jusqu'au plus profond de son être, au point de refuser d'ailleurs cette amitié de Dieu qui ne cesse de vouloir venir à sa rencontre pour le sauver et pour le diviniser, pour en faire pleinement un fils de Dieu. L'épisode d'ailleurs de la rencontre des filles de Jérusalem lors du chemin de croix du Christ devrait nous amener à y voir plus clair. Car le Christ ne pleure pas sur lui-même. Tous les évangiles s'accordent pour dire qu'il va à la croix dans le calme et avec lucidité. Il pleure sur la ville de Jérusalem, il pleure sur l'Église catholique, il pleure sur ses élus qui se refusent, qui se ferment à la grâce. Le mystère de la vie du Christ, c'est ce mystère de sa rencontre avec les âmes, on pourrait dire, qui se refusent, qui n'entrent pas dans le chemin que Dieu leur propose, ou peut-être qui y sont rentrés, mais en même temps qui en sortent plus ou moins rapidement. C'est dire que le calvaire, la souffrance du Christ, sa passion, c'est un mystère de sa propre rencontre avec les libertés humaines, c'est-à-dire avec votre liberté et ma propre liberté. Mais nous voyons que le Christ, même dans sa passion, n'exerce aucune pression. Le Seigneur nous demande de le suivre, par contre, sur le chemin qu'il prend. Il dépend seulement de nous que nous y soyons disposés. Voilà l'enjeu du carême. Le Seigneur se présente, il appelle, il provoque, il insiste. Mais si nous refusons au plus profond de nous-mêmes, l'Évangile d'aujourd'hui disait dans notre propre secret, le Christ lui-même ne fera aucune effraction. Il nous respecte. Et c'est peut-être ce que d'ailleurs nous avons le plus de mal à accepter. En aucun cas le Dieu des chrétiens est un Dieu de la soumission, si vous voyez ce que je veux dire par rapport à l'actualité. C'est dire que nous avons une totale liberté de répondre ou non en toute connaissance de cause à l'initiative divine. Pour tous les hommes, le sacrifice de l'agneau contient en puissance leur adoption dans la liberté, il contient leur rédemption, mais comme nous l'avons évoqué tout à l'heure avant la pause, jusqu'à cet envers insondable de la liberté, qui est la perdition, que les Écritures appellent le mystère de l'iniquité. dans l'usage de la liberté, il s'agit de choisir Dieu, d'entrer dans sa proposition de vie divine, mais à l'opposé, il ne s'agit nullement de choisir le mal, car philosophiquement, ce qui est une question peut-être encore probablement plus difficile qu'on ne le pense, mais philosophiquement, le mal ne se choisit pas en soi, parce que dans un certain sens, il n'existe pas. Parce que le mal n'est que l'absence du bien. Dieu peut alors être tenu en échec de par la liberté de ses créatures, de ses fils, qui se ferment définitivement à cet amour qui les sollicite. C'est-à-dire qu'une telle hypothèse nous ramène à l'être même de Dieu, à son identité, à sa paternité, à ses mœurs, à sa volonté. En d'autres termes, cela nous révèle véritablement le visage du Père, qui il est vraiment. La plénitude de la grâce aura donc, pourrait-on dire, été proposée à tout homme, à toute femme, non comme une efficacité toute puissante, mais selon ce que Irénée de Lyon appellera la forme de sa faiblesse, que cette sentence a été prise, et qui exclut d'ailleurs l'idée d'un choix originaire entre d'une part des élus auxquels la prédestination divine aurait été attribuée par une grâce infaillible et efficace pour leur salut, et puis de l'autre côté, il y aurait des non-élus auxquels il aurait été parfois alloué une grâce suffisante en principe, mais en fait promise à l'inefficacité, conformément à un faux contenu d'une fausse prescience divine en ce qui regarde la conversion de leur liberté. Il y a certains théologiens et certains même docteurs de l'Église qui disent qu'il y avait des élus qui ont été choisis parce qu'ils étaient plus aimés que d'autres, qui étaient déjà en quelque sorte prévus à la damnation, ce qui est tout à fait abominable quand on y pense. Tel qu'il nous est exprimé, le mystère du salut et de la perdition laisse apparaître sans le voiler ni le déformer ce visage du Père. Le Père ne désirait pas le fils rebelle qui lui a réclamé sa part d'héritage pour s'en aller vivre loin de lui. Bien au contraire, le Père attend son retour, il attend notre retour. Il le devance même en accourant à la rencontre de l'infidèle qui se trouve encore loin. Dans la parabole du bon pasteur, Dieu va jusqu'au bout de son amour et de ses moyens, puisqu'il laisse même les 99 brebis fidèles pour retrouver la centième qui se trouvait perdue. C'est dire que le mystère de la liberté de l'homme se trouve être parfois et souvent être une liberté rebelle, où nous expérimentons nos propres dérobades à la liberté humaine. On pourrait dire ce problème peut être beaucoup plus compris par le recours, on pourrait dire, de deux mystères, ce mystère de la piété et de l'amour et le mystère de l'impiété ou de l'iniquité. Pour comprendre que tout ceci est plus compréhensible que nous ne voulons le penser, je vous propose de recourir volontiers à un exemple évangélique qui est très connu et qui est pourtant très peu étudié pour lui-même. Cet exemple évangélique, c'est le mystère de la trahison et de la perdition de Judas. Car quand on y réfléchit, Judas était lui aussi un élu à la sainteté. Lui aussi était un fils qui a bénéficié du jusqu'au bout de l'amour du Christ, mais qui a utilisé, en dépit de la grâce d'amour qu'il a toujours sollicité, oui, Judas a utilisé sa liberté pour se fermer à l'amour du Christ. On peut dire que sa liberté s'est dérobée au mystère d'amour qui s'est présenté à lui. En se dérobant, il s'est retourné sur lui-même, tel le mythe de Narcisse. Son choix ne s'est pas porté sur le Christ pour lui-même. Et alors, il est allé, nous disent les Écritures, à son lieu de perdition, pour mieux comprendre, à son lieu de disgrâce. Le mystère de Judas consiste en ceci, qu'étant situé au cœur du sacrifice de Jésus, lui aussi, qui continue à l'envelopper de son amour, Judas s'en va vers son lieu, nous disent les Actes des Apôtres, vers ce, vers son lieu en tant que fils de perdition, dira l'apôtre Jean au chapitre 17. Judas utilise jusqu'au bout la liberté qui lui a été donnée avec la grâce d'adoption en l'opposant au dessein d'amour duquel pourtant il la tient. On peut dire qu'il contribue par là à la consommation du sacrifice du Christ, de cet amour sauveur. Si le Christ, dans son amour pour les siens, est allé, nous dit Jean au chapitre 13, jusqu'au bout, expression qui est reprise dans la prière eucharistique 4 de l'Église catholique. Si le Christ, dans son amour, est allé jusqu'au bout, c'est justement en considération de celui qu'il connaissait à ce moment même, le dessein bienveillant. Judas n'est donc pas un exclu, mais il est un élu. Il est l'un des 12 qui avait reçu sa part du ministère apostolique. Il est un ami, selon Matthieu. Il est confident. Il est celui qui mange le pain, nous dira le psaume 41. Dans le même plat de Jésus, rajoutera Matthieu au chapitre 26, c'est lui qui le trahit. Au moment où Jésus lui donne la bouchée, c'est-à-dire ce geste suprême que lui offre l'amour, le cœur de Judas se ferme au salut qui le sollicite et à l'accomplissement sacrificiel duquel il contribue par son refus même. On voit donc que dans cet exemple qui est malheureusement très souvent peu étudié, peu réfléchi, on voit que ce que l'on appelle dans les évangiles l'impiété, le péché absolu, ou les péchés qui ne cessent de se continuer, qui ne trouvent pas de solution, on pourrait dire. Cette impiété est donc bien un mystère relativement à ce quelque chose de faillible dans l'ordre de la volonté et de l'obéissance. Car Judas a ainsi dressé sa liberté contre quoi ? Contre qui ? Il a dressé cette liberté contre ce mystère de l'adoption qui le sollicitait. C'est-à-dire qu'il dresse sa propre liberté contre le projet du Père, qui a envie de le faire fils, qui a envie de le faire en quelque sorte frère du Christ. Et c'est là qu'on peut se dire que tout lui a été donné, comme d'ailleurs tout est donné à tous, comme tout est donné à tous les saints qui entrent dans le paradis, comme malheureusement tout a été donné à tous ceux et celles qui malheureusement refusent l'adoption, refusent le salut, tout est donné même à ceux qui se damnent. Judas a ainsi dressé donc sa liberté contre le mystère de l'adoption. Il n'a jamais été violenté par le Christ dans sa propre liberté, puisque cette grâce, c'est-à-dire l'amour de Dieu, lui a été donnée jusqu'au bout. On pourrait d'ailleurs se demander pourquoi le Seigneur n'a-t-il pas bousculé plus vertement Judas, de la même manière qu'il a bousculé un jour Saül sur le chemin de Damas. C'est une question que l'on peut se poser. Essayons d'y réfléchir et d'y répondre. Même dans le cas où l'on admette une bousculade supplémentaire. En quoi d'ailleurs cette bousculade serait-elle plus intense pour Paul, alors que Judas, lui, a bénéficié d'un geste d'amour du Christ? Car très souvent, on ne comprend pas ce que veut dire, peut-être en 2020, 2021, le Christ qui donne à Judas par lui-même la bouchée, vous savez, tel le prêtre qui met sur la langue des fidèles la Sainte Hostie. Ce n'est pas en fait un pouvoir du prêtre, c'est l'expression de l'amour de Dieu, de l'amour du Christ, qui donne lui-même l'aliment à l'autre, qui, pourrait-on dire, est faible, tel le bébé. Vous n'avez jamais vu un bébé tenir sa fourchette et son couteau pour manger. Et bien, de la même manière, c'est ceux qui reçoivent, on va dire, de manière mystique, de manière symbolique, le corps du Christ sur la langue, sans prendre leurs propres mains, se mettent dans une situation totale de dépendance, totale d'amour vis-à-vis de celui qui les adopte et qui les sauve. Lorsque Jésus fait de même avec Judas. Il exprime au cœur du collège apostolique que Judas, à ce moment-là, est beaucoup plus aimé que tous les autres. Si Saul de Tarse restait libre de continuer lui aussi un jour à dresser sa liberté contre Jésus, il a été aveuglé par Jésus, nous savons que cela lui a permis de se convertir, mais un autre aurait pu très bien être aveuglé et continuer à haïr le Christ et haïr les chrétiens qu'il essayait de persécuter. Ce qui est en jeu ici, nous le voyons, c'est la possibilité d'une trahison définitive qui ne puisse plus se reprendre, la possibilité qu'un homme ou une femme s'installe dans le mal de façon définitive, alors que la possibilité du pardon lui est toujours offerte aujourd'hui, demain, après-demain, jusqu'à la mort, jusqu'au dernier instant de sa vie. On pourrait dire ainsi que plus l'homme ou la femme continue à dresser sa liberté contre ce dessein bienveillant que nous avons véritablement abordé depuis maintenant ces 4 dernières séances, plus cet homme dresse cette liberté contre le dessein d'adoption, auquel d'ailleurs on pourrait dire, lorsque l'homme a une véritable liberté, cette liberté, elle est véritablement le don, elle est le cadeau de Dieu, elle est la grâce de Dieu qui est la définition même de son adoption. Nous ne sommes pas les esclaves de Dieu. J'ai presque même envie de dire, alors que nous en sommes les serviteurs, c'est comme si Dieu ne nous considère même plus comme ses serviteurs, puisqu'il dit lui-même au dernier repas, aux apôtres, « Je ne vous appelle plus mes serviteurs, mais mes amis. » C'est en nous donnant la liberté que Dieu nous donne, justement, on pourrait dire, la définition même de notre filiation adoptive, que nous sommes des fils de Dieu. Nous sommes fils de Dieu non pas parce que nous sommes esclaves, nous sommes fils de Dieu parce qu'il nous est donné une liberté. Ainsi, lorsque l'homme va utiliser ou ne pas utiliser cette liberté, en la prenant contre même Dieu, contre son dessein d'adoption, alors on peut dire que ce projet de Dieu, ce dessein de Dieu devient pleinement sacrificiel. Le jusqu'au bout que j'ai évoqué tout à l'heure, ce jusqu'au bout de l'amour du Christ pour les hommes, qu'il a voulu d'ailleurs atteindre dans sa propre Pâque, c'est justement ce point limite qui coïncide, d'ailleurs sans pouvoir l'annuler, avec cet extrême refus de la liberté humaine. Annuler ce qui rend possible ce refus, ce serait annuler par Dieu l'adoption filiale que le sacrifice du Christ se propose de sauver. On pourrait dire, pour encore mieux compléter ces définitions, mes amis auditeurs, que je vous ai proposées, l'adoption filiale, le don de la filiation, c'est vraiment le don de notre liberté. C'est dire que l'existence de l'enfer, la réalité de la damnation ne vont jamais procéder d'un choix originaire, préalable de Dieu, entre d'un côté une catégorie d'élus, de ceux qui seraient bien vus, de ceux qui seraient bien nés, de ceux qui seraient bien aimés, et puis de l'autre côté de non-élus, de ceux qui seraient une dernière catégorie, de ceux qui n'auraient pas le choix, de ceux où tout serait déjà écrit pour eux. Non, il faut y voir au contraire la confirmation du fait que la seule prédestination de tous les hommes discernée dans le mystère du Christ, dans son mystère d'amour, dans son mystère de rédemption, dans le mystère de l'agneau sacrifié pour eux, consiste à reproduire l'image de son Fils. Notre destinée, notre vocation à tous, c'est de recevoir une liberté qui consiste dans notre vie à reproduire l'image de Jésus. C'est fort quand on y pense. Notre destinée, la proposition, l'enjeu de notre vie, c'est de reproduire l'image du Fils en nous-mêmes. Comment ? Eh bien, en essayant jour après jour de lui ressembler. Comment ? De la même manière dont le Christ a usé de sa liberté, certes divine, mais de sa liberté humaine dans notre monde, c'est-à-dire dans sa propre obéissance vis-à-vis de son Père. Et c'est ça qui est en quelque sorte non pas la contradiction, mais le paradoxe de nos existences. C'est de croire que l'obéissance à laquelle nous sommes sollicités est quelque chose qui est un poids qui nous enferme, qui nous amenuise, alors que l'obéissance que nous pouvons imiter du Fils au quotidien de notre vie, c'est véritablement, on pourrait dire, progressivement, eh bien, le début de notre divinisation. C'est l'accomplissement même de notre liberté. Alors que ceux qui se damnent, ce n'est pas que Dieu ne les avait pas aimés ou ne les avait pas élus. Les gens qui se damnent, ils ont été eux aussi élus, au contraire, dans le sacrifice d'amour du Fils qui est mort pour eux sur la croix. En rejetant le Christ, la pierre d'angle de ce projet du Père, eh bien, eux-mêmes l'ont changé pour eux-mêmes, nous disent les Écritures, en pierre de scandale. La damnation est le résultat d'une impénitence finale de tous ceux qui avaient été élus et prédestinés eux aussi à la filiation, mais qui ont résolument et catégoriquement, jour après jour, refusé l'amour du Christ, comme j'ai envie de le dire, dimanche après dimanche. On ne répond pas de manière libre à l'invitation à l'éternelle alliance dans la messe de chaque dimanche. Oui, toutes ces personnes ont demandé en cette vie leur part d'héritage. Ils ont choisi leur autosuffisance, ils ont choisi le repli sur eux-mêmes, leur éloignement du Père, un éloignement manifesté par le rejet du don d'amour du Père, c'est-à-dire du rejet du Fils éternel, du rejet de l'agneau immolié. Comment l'acte libre peut-il être donc mauvais ? Eh bien, en raison même que l'agonie de Jésus au jardin de Gethsémanie les a tous en quelque sorte récapitulés. Ils n'ont pas répondu à cette liberté d'aimer. Oui, il y a parfois dans le péché quotidien, un non-exercice de la liberté d'aimer que l'on pourrait appeler le péché d'omission. Nous nous rendons compte avec beaucoup de confrères prêtres et beaucoup de chrétiens que très souvent, et c'est très grave ce que nous pouvons dire, que en fait, dans nos péchés, ce qui est parfois le plus grave, ce ne sont pas nos péchés d'action, mais ce sont malheureusement nos péchés d'omission, nos péchés de refuser d'aimer, nos péchés d'être des créateurs d'amour, d'être des créateurs de pardon, d'être en quelque sorte celles et ceux qui n'occupent pas les bancs de la prière, la place des fils de Dieu en ce monde et dans l'Église. Alors que le Christ, pour terminer cette méditation, s'est lui engagé douloureusement dans cette voie, par son obéissance, par sa liberté, par sa prière quotidienne. Il s'est engagé en vérité dans la volonté du Père, et ce n'est pas un hasard que si nous avons dans notre Père « Que ta volonté soit faite », que le Christ n'est qu'une obéissance à la volonté du Père, et c'est là que le Christ est notre modèle. L'obéissance du Christ est une obéissance souveraine et non pas soumise de quelqu'un qui est libre, mais en même temps, s'il est subordonné à son Père, c'est justement parce qu'il est vraiment l'homme par excellence. Oui, Pilate avait bien raison de dire « Voici l'homme ». Jésus est l'homme par excellence parce que dans sa liberté, il nous apprend à être obéissants, c'est-à-dire pleinement libres à ce projet qui se réalise progressivement, qui irradie notre nature humaine et qui progressivement nous divinise par grâce et fait de nous tous des fils, tels que le Seigneur désirait de toute éternité nous faire participer à cette divinisation.
Bien, Père Éric Wohlbrett, merci beaucoup, merci infiniment pour cette belle méditation
Merci.
de ce soir.
Merci bien.
Merci Père, et au mois prochain. Au revoir.